Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Halou Dmandi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Bienvenue dans ce forum de la presse. La Cour constitutionnelle a confirmé lundi dernier la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ce forum, on en parlera. Mardi dernier, le Mali, à l'instar de la plupart des pays du monde musulman, a célébré la fête de l'Aïd El-Kébir. Il en sera aussi question. Nos invités sont Abdramane Keïta du journal Le Témoin, Omar B. Sidibé du quotidien L'Indicateur du Renouveau, Badou Escobar de l'hebdomadaire Le Carrefour, Mohamed Ag Issa Feitan, correspondant de Studio Tamani à Ménaka, sera au téléphone avec nous. Je suis Aliou Sidibé. Bienvenue à vous, chers confrères.
Le grand dialogue.
Avec 67,16% des voix, Ibrahim Boubacar Keïta rempile pour un second quinquennat à la tête de la magistrature suprême de notre pays. Sa réélection a été solennellement proclamée lundi dernier par la Cour constitutionnelle lors d'une audience présidée par Manassa Danioko, président de l'institution. Alors, Abdramane Keïta, quel est votre avis par rapport à cette proclamation de la Cour constitutionnelle ?
Bon, par rapport à la proclamation proprement dite, je ne suis pas tellement surpris parce que les signaux de cette proclamation ont été donnés depuis le premier tour et peut-être même avant le premier tour. Mais ce qui m'étonne beaucoup dans le truc de la Cour, dans la démarche de la Cour, c'est que pour une première fois, on n'a pas senti une Cour qui a véritablement travaillé sur le dossier. On n'a pas senti vraiment une Cour qui s'est donné la peine à examiner réellement les récriminations des gens. Et une Cour qui a pris beaucoup de liberté et qui en a donné les signaux depuis la proclamation des candidatures. J'ai vu une Cour qui s'est donné des libertés, par exemple, par rapport et à la régularisation de certains candidats qui ne méritaient pas d'être retenus comme tels à l'époque. Et malheureusement, je suis étonné que... Je suis tout autant étonné aussi des contestations qui ont cours actuellement parce que, en réalité, c'est depuis lors que les contestations devaient... Les voix devaient s'élever pour contester ces comportements et les grandes libertés que se donnait la Cour. C'est depuis ce temps-là quand la Cour a transgressé le droit à transgresser et à outrepasser ses prérogatives pour régulariser des candidats qui ne méritaient pas, qui ne répondaient pas aux critères pour être admis et comme tels, que des voix devaient s'élever. Au lieu de quoi, les gens ont préféré se taire et l'ont laissé vraiment continuer sur la lancée jusqu'à la proclamation du premier tour d'abord, des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, ensuite du second tour, qui chaque deux étapes qui se ressemblent, parce qu'ils ne sont même pas donné la peine. Et je me demande si en réalité les élections, dans les conditions où elles ont été organisées, si la Cour s'était donné réellement les moyens pour être présent là où réellement il peut avoir matière à traiter.
Très bien. Voilà. Alors, Badou Escobar, votre avis ?
De mon point de vue, la Cour constitutionnelle, d'après le chef de file de l'opposition, qui est le malheureux finaliste, la Cour constitutionnelle est devenue une prisonnière du pouvoir parce qu'elle n'a pas équitablement travaillé pour vraiment traiter toutes les requêtes qui devraient en principe déboucher sur un bon résultat, sur un résultat définitif. Pour l'opposition, cette Cour constitutionnelle a plutôt accouché d'un monstre démocratique qui est le président qui a été élu. Donc, pour la plupart des candidats qui ont perdu dès le premier tour, la Cour constitutionnelle vraiment n'a pas suivi les règles démocratiques parce qu'elle n'a pas pleinement joué son rôle. Bon, ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que s'il s'agit réellement du contexte dans lequel l'élection a été tenue, nous pouvons dire que pratiquement tous les grands partis, n'est-ce pas, ont puisé dans le répertoire de la fraude électorale. C'est-à-dire, s'il s'agit déjà ça de conscience, s'il s'agit d'autre chose, pratiquement tous les grands partis, n'est-ce pas, se sont livrés à des pratiques peu orthodoxes. S'agissant du bourrage des urnes, nous n'avons pas peut-être beaucoup de preuves, mais ce qui est sûr, c'est que dans les zones du Nord où l'administration publique n'est pas présente, on a effectivement signalé des cas de bourrage d'urnes. Tout compte fait, le travail de la Cour constitutionnelle, quand même, émet forcément des doutes, parce que si vous voyez comment les choses ont évolué jusqu'à l'aboutissement du processus, vraiment, il y a de quoi à s'inquiéter. Donc, au-delà de ça, et avant même que la Cour constitutionnelle ne proclame les résultats définitifs, le président français Emmanuel Macron, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont tous appelé le président sortant pour le féliciter. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne chose dans un État démocratique, surtout que ces gens se disent démocrates.
Omar Barrou Siribé.
J'ai envie de m'aligner dans le même sens que mes deux confrères en fustigeant un peu le comportement arrogant de cette Cour constitutionnelle tout au long vraiment de ce processus électoral. On a effectivement constaté que la Cour constitutionnelle dirigée par Manasse Adanogo s'est fendue vraiment de deux arrêts bruyants, emprunts, si vous voulez, teintés, si vous voulez, d'arrogance, et même également de dédain envers certains candidats. Surtout quand, en lisant l'arrêt, quand la présidente de la Cour commet ces lapsus assez malin ou même arrogant à l'égard d'un candidat en appelant Soumaïla Cissé, Soumaïla Sidibé, moi je pense que c'est des erreurs, pas même des erreurs, c'est des lapsus qui ne sont pas forcément tolérés à ce stade du processus. J'ai eu l'impression comme si cette cour dirigée par Manasse Adanogo était dans une sorte de règlement de compte, si vous voulez, de châtiment envers ceux-là qui ont contesté son avis lors de la révision constitutionnelle de 2017. Parce qu'en réalité, en 2011 déjà, le président Atété avait requis l'avis de la Cour constitutionnelle vraiment pour se lancer dans un projet de révision constitutionnelle. La Cour avait dit à l'époque vraiment qu'il n'était pas possible de réviser la Constitution parce que le Mali vraiment ne recouvrait pas la totalité de son territoire. En 2017, quand il s'est agi vraiment de la même demande, la Cour dirigée par Manasse Adanogo a effectivement dit que c'était bel et bien possible de réviser la Constitution malgré qu'une bonne partie du territoire était sous l'occupation vraiment des forces du mal. En réalité, moi je pense que cette Cour était dans une logique de châtiment envers les plus téméraires, envers les téméraires de 2017. Quoi. Franchement, moi je pense que la Cour était dans une... Quand vous regardez un peu les différentes sorties de Manasse Adanogo, elle était très vocale, elle prenait plus de paroles que les politiques, que les vrais acteurs politiques vraiment de ce processus. Moi, je pense qu'elle était plus politique que juridique dans ce processus. Franchement, son comportement, si vous voulez, cet arrêt de la Cour constitutionnelle, il y a beaucoup à reprocher vraiment à ces deux arrêts qui ont donné des bruits que ça a donné.
Alors, nous allons... Oui, on va... Oui, allez-y rapidement.
Peut-être que la Cour n'a pas châtié les gens, ceux qui avaient contesté son avis sur le référendum. Mais je suis sûr quand même qu'il y avait quand même un air de règlement de compte entre ceux qui l'avaient jugé disqualifié à cause de l'avis qu'elle avait préalablement donné.
On va en revenir dans le débat. Ouais, on va en revenir dans le débat. Alors, Mohamed Ag Issa Feitane, vous, en tant que journaliste évoluant dans la région de Ménaka, quel est votre avis par rapport à cette proclamation de la Cour constitutionnelle?
Bon, écoutez, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de commentaire spécial à faire par rapport à la Cour constitutionnelle parce que c'est un monde... trop compliqué pour moi, que je ne comprends pas. Je ne sais pas exactement comment ils travaillent. Ce que je sais, c'est que la Cour constitutionnelle a déployé des observateurs partout. Donc, pour moi, elle a toutes les preuves, en tout cas, pour faire un jugement valable. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait est bien ou bien c'est mauvais, mais je me dis quand même qu'en déployant des observateurs un peu partout dans ces pays-là, dans les bureaux de vote, je les ai rencontrés beaucoup d'ailleurs, elle dispose suffisamment de preuves pour donner la vérité à qui des droits. Maintenant, ce que je ne comprends pas, lorsqu'un candidat se dit, par exemple, voler, ou bien s'il dit préhendé par les autres. Je ne peux pas comprendre qu'un candidat doit être ses assesseurs dans les bureaux, parce que d'après ce que je sais, chaque candidat a son assesseur dans un bureau. Alors, si la Cour constitutionnelle, quand même, ne peut pas donner l'assesseur à quelqu'un, c'est que l'assesseur de l'IRD ou bien de l'ADMA, ou bien c'est pas moi de tel parti qui est dans ses bureaux, il est capable de remonter une information, c'est vrai, vers son quijet. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans la plupart des cas, et ça c'est un peu partout dans ces pays, on trouve que les assesseurs ont été payés soit par un ou l'autre, n'est-ce pas, candidat. Donc, dans ces cas précis, moi, je ne peux pas accuser la Cour constitutionnelle, je ne peux pas accuser Manassa Dayoko, je ne peux pas accuser Telgis, mais j'accuse plutôt les partis politiques qui n'indiquent pas très bien les citoyens, les partis politiques qui n'appellent même pas aux citoyens de voler. Par rapport au nord où je suis, par exemple, où effectivement, on a beaucoup parlé de bourrage des urnes, c'est que moi, je ne peux pas confirmer parce que je n'étais pas là. Je peux confirmer quand même que les gens ne sont pas déplacés assez pour les votes. J'essaie seulement que, par exemple, quand vous venez dans ces pays au nord, il y a ce qu'on appelle les fractions. Et les fractions, c'est un chef de fraction. Dès l'instant que les chefs de fraction s'alignent pour un parti, dites-vous que toute la communauté est donc avec, n'est-ce pas, les partis. Un exemple, à Alata, par exemple, il y a des bureaux là-bas où Soumela a fait 400, Ibeka avait 0. Il y a d'autres bureaux de l'autre côté où Ibeka a fait 300, Soumela a 0. Donc c'est un peu ça. Je n'accuse pas la Cour constitutionnelle, moi j'accuse plutôt les hommes politiques et qui n'apprennent pas, n'est-ce pas, à leurs citoyens à comment s'adonner aux élections et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Depuis que ces élections ont commencé, par exemple, pour les cas précis de Minaka, on n'a dit aucun candidat, par exemple, qui est venu ici pour se faire connaître, pour faire connaître son programme. D'ailleurs, dans la plupart des cas, il n'y a pas de programme. Donc, voici un peu ce que j'ai à dire par rapport, en tout cas, à mes collègues. Chacun est libre de parler, mais moi, je ne comprends pas très bien comment travaille la Cour constitutionnelle et je ne donne pas tort à la Cour constitutionnelle parce que les élections de 2002, depuis 1992, les élections se sont toujours passées de cette même manière, avec ce bourrage des urnes, avec ces fraudes, et ce sont les mêmes hommes politiques qui font ces élections-là.
Mais Issaïf Issa Feitan, à votre avis, est-ce qu'il fallait s'attendre à des modifications notoires par rapport à la proclamation de l'administration territoriale?
Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je savais que la Cour constitutionnelle allait exactement, j'allais dire, même si ce n'est pas totalement vrai, allait exactement communiquer ce que l'administration avait donné. Parce que moi, j'étais là à la Cour, comment dire, à la commission de centralisation, et je crois que les États n'ont véritablement pas changé. Maintenant, l'écart entre Soumela et Ibeka dans ce lot-là, je ne sais pas comment on pourrait parler de fraude massive. Parce que dans les deux cas, il y a quand même eu des fraudes. Peut-être que de l'autre côté, ça a été trop, mais 32 contre 67, je vois que le cas est vraiment assez grand pour parler d'une présidentielle remportée, par exemple, par Soumela. C'était un avis.
OK. Alors, Oumar Bé Sidibé, les recours à ce second tour, comme au premier tour d'ailleurs, ont été rejetés faute de preuves ou de délais fort clos. Alors, à votre avis, est-ce que le droit a été réellement dit?
Pas du tout. Je ne peux pas dire que le droit a été dit. En regardant, surtout en analysant un peu les commentaires qui ont suivi ces deux arrêts par la présidente de la Cour constitutionnelle, on sent qu'elle n'était pas trop dans une logique de dire les droits, mais plutôt dans une logique de faire plaisir à quelqu'un. Quand vous qualifiez les avocats d'une partie d'amateurs, des bandes d'amateurs, pas des bandes d'amateurs quand même, et il a fustigé l'amateurisme des avocats qui ont constitué le dossier, si vous voulez, des recours du candidat Soumaïla Cissé. Quand vous qualifiez ces avocats d'amateurs, quand vous appelez un candidat le deuxième d'une élection présidentielle, quand vous vous trompez de son nom de famille, là, ça peut donner à toutes les imaginations possibles. Moi, je pense que, franchement, la Cour a ce rôle. Le droit, c'est quoi? C'est l'expression de la volonté populaire, en réalité. Il suffit de sortir de ce studio tout de suite et aller demander aux Maliens ce qu'ils pensent vraiment de ces deux arrêts produits par la Cour constitutionnelle. Ils vont dire ce qu'ils vont dire, en réalité. Moi, je pense, très franchement, la Cour a ce rôle, au-delà de dire le droit, et elle doit avoir vraiment ce rôle, vraiment, d'éduquer les citoyens lambda, vraiment, d'éduquer, si vous voulez, même les partis, même les candidats par rapport à la constitution des plaintes qui devaient être déposées devant elle, au lieu de vraiment de faire de façon ironique, avec beaucoup de mépris. Moi, je pense que ce mépris, les dédains n'avaient pas de place vraiment lorsqu'il s'agit d'une institution aussi sérieuse qu'est la Cour constitutionnelle.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Vous êtes en train de suivre le forum de la presse de ce vendredi 24 août. Et nos invités sont Abdramane Keïta du journal Le Témoin, Oumar B. Sidibé du quotidien L'Indicateur du Renouveau, Badou Escobar de l'hebdomadaire Le Carrefour et Mohamed Ag Issa Feitan est au téléphone depuis Menaka. Alors, Badou Escobar, est-ce que le droit a été dit?
De mon point de vue, le droit n'a pas été tout à fait dit. Quand nous voyons même le comportement de la présidente de la Cour constitutionnelle par rapport à la façon dont les résultats ont été prononcés, vraiment, il y a de quoi vraiment à s'inquiéter. Au-delà de cela, vous savez qu'en 2002, quand même, Soumaïla Cissé a reconnu sa défaite. En 2013, il a reconnu sa défaite. Et cette fois-ci, il dit qu'il ne reconnaît pas sa défaite. Et il est prêt à passer par tous les moyens qui sont à sa disposition pour que le droit soit dit, pour qu'il soit mis dans ses droits. Donc, ce qui veut dire qu'il a des arguments pour vraiment contester le résultat, pour contester la réélection du président Elhadj Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, nous sommes en démocratie. Dans un État démocratique, la Cour constitutionnelle doit jouer ce rôle régalien de faire en sorte que, quand un scrutin se déroule, que les résultats soient donnés et que ces résultats soient des résultats fiable. Or, je me rappelle bien, lorsque Manansa Danyogo a donné le nom définitif des différents candidats, elle a bel et bien dit que la Cour constitutionnelle du Mali est la seule Cour constitutionnelle dans la sous-région qui agit à toute indépendance sans pression.
Alors, Abdramane Keïta, rarement dans l'histoire de la démocratie malienne, un verdict de la Cour constitutionnelle n'a été autant contesté. Alors, que s'est-il passé réellement selon vous?
Bon, ce qui s'est passé réellement, je vais d'abord un peu toucher ce que vous avez dit par rapport au droit, proprement dit. Moi, je pense qu'en réalité, la Cour est trop restée dans la logique d'un bras de fer et de règlement de compte avec certains protagonistes des élections. Et elle s'en est donné le droit de faire un travail paresseux. Elle en a profité pour faire un travail paresseux qui a consisté à dire à éluder toutes les plaintes de ces protagonistes-là au premier tour pour dire qu'en réalité, ce sont des plaintes qui sont fort clos par rapport à leur réclamation. Et ce qui n'était pas tout à fait vrai puisque son argumentaire repose sur les dispositions de la loi qui dit que les contestations sur le scrutin doivent intervenir 2 jours après le scrutin. Or, ces gens ont introduit leur contestation après la proclamation des résultats par l'administration territoriale. Or, je pense qu'ils avaient, après la proclamation des résultats par la loi, aussi le droit de contester un peu cette proclamation-là. Et ces contestations de la proclamation de l'administration territoriale peut aussi reposer sur des faits se rapportant sur le scrutin. Donc l'argumentaire évoqué par la Cour pour enlever, pour tout de go, et éluder et esquiver les réclamations des uns et des autres ne tenait pas beaucoup. Et je reviens encore pour dire qu'en réalité, la Cour a donné les couleurs de la transgression de la loi depuis la proclamation des candidats, la liste des candidats. La Cour n'avait pas le droit de donner le droit à certains candidats de régulariser leur situation alors qu'ils étaient en défaut. À partir du moment où on a déposé sa candidature, et la tendance devrait être que ceux qui n'ont pas respecté les règles et les critères évoqués dans la loi en rapport avec le dépôt de candidature doivent être éliminés. Ils sont donnés le droit de repêcher certains en leur donnant la possibilité de se régulariser. Voilà sur cette question. Okay. Bon, maintenant, ce qui est arrivé en réalité, ce qui est réellement arrivé, ce que moi je pense qu'en réalité, je suis certain que aujourd'hui l'opposition, ou du moins Soumaïla Cissé, l'URD, se trouve dans une logique de contestation préélectorale. En réalité, on ne peut pas avoir mieux avec les conditions d'organisation qu'ils avaient acceptées en amont que ces élections-là qu'on vient d'avoir. Tous ceux qui sont en train de dénoncer aujourd'hui auraient pu être dénoncés depuis la période préélectorale. Ils ne devraient pas accepter, par exemple, d'aller à des élections dans un pays où l'administration n'était pas présente partout, où la sécurité n'était pas présente partout, où ils n'avaient pas la possibilité d'avoir partout leurs délégués et leurs assesseurs. Voyez-vous, où ils n'avaient pas la possibilité de sillonner un peu partout les villages, y compris dans les zones de son électorat, à lui, de son électorat traditionnel, pour faire campagne et rafler. Donc quand on accepte ces conditions d'organisation des élections, on ne peut s'attendre qu'à un résultat tel qu'il y en a eu comme ça. Donc en réalité, je ne dirais pas que les corrections de la Cour auraient pu inverser la tendance, mais moi je dirais plutôt qu'en réalité, à force d'avoir avalé les couleuvres, à force d'être allé de concession à concession, l'opposition s'est prise dans ses propres pièges.
Merci. Alors, une réaction rapidement.
Je voulais également dire que, c'est-à-dire le manque de rigueur dans l'examen des premiers recours, si vous voulez, des recours du premier tour, vraiment a valu à cette cour une gifle internationale en réalité. Cette gifle, je pense que ça a commencé avec les différentes félicitations avant même la proclamation des résultats du second tour par la cour constitutionnelle. Moi, je pense que la bonne santé de l'axe Élysée, Nouakchott, Kidal et Koulouba, vraiment, s'est beaucoup ressentie dans l'examination vraiment de ces différents recours. Franchement, il y a trop à faire il y a trop de travail à abattre au niveau de la cour constitutionnelle, vraiment, pour qu'elle puisse redorer vraiment son blason, vraiment gagner encore éventuellement la confiance vraiment de cette population qui vraiment ne tarit vraiment pas de mots pour décrier cette cour constitutionnelle. Elle a du travail à faire vraiment pour gagner encore la confiance de ses compatriotes.
Alors, Badou Escoba, oui, des réactions.
C'est que j'aimerais ajouter aussi le comportement des partis politiques. Chaque année, l'État octroie des millions de francs CFA aux partis politiques pour qu'ils conscientisent leurs militants, pour qu'ils fassent comprendre à leurs militants comment voter en toute conscience, en toute liberté, pour celui qui peut sortir le mode de l'impasse. Mais on remarque l'effet contraire. Parce que si nous prenons la population malienne, 18 millions d'habitants, 8 millions d'électeurs inscrits, sur les 8 millions d'électeurs inscrits, moins de 2 millions ont choisi le président de la République. Donc, ça remet en cause même la crédibilité du système démocratique. Et là, je rejoins Jevgeny Brzezinski, l'ex-conseiller à la sécurité du président Jimmy Carter, qui dit que la démocratie a atteint ses limites. Donc, quand vous voyez le nombre d'électeurs, le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'abstentions, le nombre de suffrages exprimés, il y a de quoi vraiment à réfléchir. Donc, de mon point de vue, les hommes politiques à l'avenir doivent réfléchir à cela. Au-delà de cela, avant même que le scrutin ne soit organisé, les partis politiques de l'opposition n'ont pas exprimé un certain nombre de revendications. Certains d'entre eux disaient en privé que Agarlov soit le ministre de l'administration territoriale, que le général Chaka Sangaré dirige la DGEC. Vraiment, ça ne leur inspire pas confiance. La DGEC, ça ne leur inspire pas confiance. Donc, ils auraient pu réclamer leur tête dès le départ, avant même que le scrutin ne soit organisé.
Ok. Mais selon vous, Badou, la rupture de confiance entre la Cour et certains acteurs politiques qui accusent des juges de partialité, est-ce qu'elle aura des conséquences sur notre démocratie?
Impérativement. Ça va créer un manque de confiance entre la classe politique et la Cour constitutionnelle. Parce que pour la classe politique, pour la plupart des candidats, cette Cour constitutionnelle est une Cour constitutionnelle qui est prise en otage par le président de la République. Donc cette Cour constitutionnelle ne peut pas agir en toute indépendance, en toute objectivité. Or, dans une démocratie, dans une grande démocratie, dans une bonne démocratie, la Cour constitutionnelle quand même est en partie garante, n'est-ce pas, de l'ancrage de la démocratie. Donc, à mon avis, pour les prochains scrutins à venir, vraiment, les pouvoirs publics doivent penser comment faire en sorte qu'il y ait cette confiance entre la Cour constitutionnelle et la classe politique.
Alors, oui, allez-y. Oui,
moi, je dirais qu'en réalité, on en parle comme si, en réalité, c'est une génération spontanée de Cour constitutionnelle. Non, non, non. La Cour constitutionnelle a tout la rupture et le manque de confiance, et, c'est-à-dire les Maliens oublient vite. Sinon, la rupture et le manque de confiance de la classe politique et la Cour constitutionnelle ne datent pas d'aujourd'hui. En 2002, je me rappelle qu'Ibeka se trouvait dans une position similaire par rapport à Atete. Il avait contesté les élections. Mais contrairement à Soumeila, à la différence de Soumeila, après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, il a appelé à l'apaisement au nom d'un deal qui n'a pas été révélé et dont on a vu le résultat avec les élections législatives plus tard. En 2002, les législatives qui ont suivi, en 2002, Diankounda Traoré, président de la transition, de la dernière transition, a eu maille à partir avec la justice, avec la Cour constitutionnelle, puisqu'il avait lui aussi, comme les acteurs d'aujourd'hui, dénoncé des actes de corruption et des intéressements qui se sont déroulés entre certains acteurs des législatives à son détriment. Et ça a créé un grand bout. Donc en réalité, en 2013, on a eu une inversion spectaculaire de résultats aux législatives. Et qui ont abouti, qui ont débouché sur le Parlement actuel, l'Assemblée nationale actuelle qu'on voit, et avec tout ce qu'on sait là-dedans. Et plus loin, auparavant, en 2002, c'était les mêmes inversions de résultats qui avaient à l'époque fait dire, qui avaient à l'époque inspiré le terme de troisième tour à un certain Soumaïl Boubé Mega, Premier ministre aujourd'hui. Puisqu'il était à l'époque à l'ADEMA et président de la commission électorale de l'ADEMA. Il avait eu sa majorité aux législatives de 2002, mais la Cour avait inversé les résultats dans beaucoup de localités, dans beaucoup de circonscriptions électorales. Donc, en réalité, le truc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais les Maliens, chaque fois, après chaque quinquennat, on oublie vite. Et les gens, à force de courir derrière des résultats électoraux, ne tiennent pas compte de la donne Cour constitutionnelle.
Mais est-ce qu'il y a d'autres recours pour Soumaïla Cissé?
Je ne pense pas qu'il y ait d'autres recours, mais là, c'est ça. Pour lui, le recours, c'est la rue. Il s'est engagé dans une logique de se faire justice par la rue.
Voilà.
Je pense qu'en réalité, non. Je pense que Soumaïla Cissé doit se remettre en cause aussi, parce qu'en réalité, les choses seraient déroulées autrement s'il avait été alerte. Il vient de le dire après moi, avant les élections. Qu'il ne pouvait pas partir aux élections avec des conditions d'organisation déjà et les gagner. Au lieu de quoi, je pense qu'il s'est fait des illusions. Et pas lui seulement, beaucoup d'autres, les 24 autres candidats, peut-être se sont fait des illusions sur l'impopularité du président de la République sortant, oubliant que, je pense, hein, qu'en réalité, ça ne se joue pas seulement sur les réseaux sociaux, mais qu'il y a aussi des réseaux structurels. Et qui agissent beaucoup plus dans les élections que les réseaux sociaux et puis le boucan qu'on entend chaque fois de la part des gens qui ne voient même pas aux urnes.
Ok. Alors justement, Soumaïla Cissé annonce qu'il ne reconnaît pas la victoire du président sortant et appelle à une marche demain, samedi. Alors, quelles sont les chances pour lui d'obtenir gain de cause?
Oui, mais en la matière, moi je pense que un candidat à l'élection du président de la République, un candidat malheureux, entre guillemets, il a des recours. Le premier recours, ça, c'est d'ordre judiciaire, c'est de porter ses plaintes devant une cour constitutionnelle, ce qui a été épuisé déjà. Je pense que l'autre recours, ça, c'est les contestations politiques. OK? Donc, moi, je pense qu'ils ont épuisé la première phase des recours. La deuxième phase, ça, c'est les contestations de résultats. Et ça, personne ne peut prédire vraiment l'issue vraiment de ces contestations. Personne autour de ces plateaux ne peut quand même prédire ces questions-là. Moi, je pense que pour revenir un peu en arrière, cette question des méfiances, si vous voulez, des acteurs politiques vis-à-vis de la Cour constitutionnelle va demeurer jusqu'à ce qu'on vide la question de l'inféodation, si vous voulez, de la Cour constitutionnelle ou bien même des membres de la Cour constitutionnelle à l'administration ou au pouvoir politique en place. Si on n'arrive pas à changer les conditions de désignation de ces membres de la Cour constitutionnelle, moi je pense que cette méfiance va vraiment demeurer. Il faut vraiment que nous arrivions vraiment à changer, si vous voulez, les conditions de désignation des membres qui devront siéger au niveau de la Cour constitutionnelle. Imaginez, cette Cour est composée de 9 sages. Comment sont nommés ces 9 sages? Connaissant, si vous voulez, la mentalité du Malien, le devoir d'ingratitude vis-à-vis de l'autorité de nomination, est-ce que tous ces membres vraiment seront imbus vraiment de ce devoir d'ingratitude vis-à-vis de ces autorités de nomination? Je ne pense pas. Nous, franchement, on récompense le bien par le bien chez nous. C'est ça le vrai Malien. Donc, tant qu'on n'arrive pas à vider cette question, on n'arrive pas à changer les conditions de nomination de ces...
Changer
les textes, justement.
Voilà, donc, il faut revoir un peu le texte, pas seulement les conditions de nomination de ces gens-là, mais aussi revoir un peu le champ de liberté et le champ d'action de la Cour constitutionnelle sur les élections.
Voilà. Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Nous sommes toujours dans le cadre du Forum de la presse et nos invités sont Abdramane Keïta du journal Le Témoin, Oumar Barou Sidibé du quotidien L'Indicateur du Renouveau, Badou Escobar de l'hebdomadaire Le Carrefour et Mohamed Ag Issa Feitan, notre correspondant à Menaka. Alors, monsieur Sidibé, une réaction?
Voilà, donc je disais que cette contestation politique, ça c'est la suite logique vraiment du combat que les candidats, pas le combat, de la méthode que, et la voie, si vous voulez, la voie que les candidats Soumaïla Cissé avaient emprunté depuis la proclamation du résultat provisoire par le ministre de l'administration territoriale. Franchement, ça traduit encore toujours, c'est la suite logique de sa méfiance vis-à-vis de la Cour constitutionnelle qui a proclamé ce résultat définitif. Moi, je pense que le camp Soumaïla est dans cette logique vraiment de ne pas reconnaître cette Cour constitutionnelle parce qu'elle avait demandé, le camp avait demandé sa récusation. On ne peut pas aimer une chose et son contraire. On ne peut pas demander à quelqu'un vraiment de ne pas juger ton jugement et se plier vraiment au jugement rendu par cette même cour. Vraiment, il suit une logique.
Okay. Voilà. Badou Escobar, est-ce que Soumaïla a une chance d'avoir gain de cause?
Ça m'étonnerait que Soumaïla ait gain de cause. Et je pense que cette élection relève désormais de la préhistoire. Parce que demain, il va sortir. Les gens vont sortir pour contester le résultat, mais ça ne produira pas grand-chose. Vous savez, l'histoire n'est pas le fruit du hasard. Elle suit une logique et mûrement réfléchie. Si nous prenons le cas spécifique de Soumaïla, en 2002, nous savons tous comment il a tripatouillé pour être le candidat de l'ADEMA. Donc, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Et au-delà de ça, pour la stabilité même du Mali, les voisins du Mali accepteront difficilement que le chaos soit semé dans ce pays-là. Parce qu'ils disent que le Mali est une digue. Si le Mali se disloque, c'est toute la sous-région qui va empâter. Donc, ce qui est sûr et certain, ils vont essayer de faire raisonner Soumaïla Cissé pour lui faire comprendre qu'à l'heure actuelle, la stabilité du Mali est une nécessité pour l'ensemble des pays de la région. Et le président Elhadj Ibrahim Boubacar, qui était depuis Nouakchott hier, a été clair. Il dit que Soumaïla Cissé, qu'il arrête de faire le marchand d'illusions et que lui, il est là, il est prêt à lui tendre la main pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et je vais rebondir aussi sur la question de la Cour constitutionnelle. Les cours constitutionnelles en Afrique ont toujours été comme ça. Vous avez vu le cas du Zimbabwe où Nelson Chamisa, après avoir tenté de contraindre le président sortant par la rue, s'est référé à la Cour constitutionnelle et cette Cour constitutionnelle a finalement tranché en faveur du président sortant Emmerson Mnangagwa. Donc, de mon point de vue, Soumaïla Cissé, vraiment, il n'a qu'à essayer de se résigner, de voir comment restructurer son parti et préparer 2023. Sinon, pour 2018, c'est pratiquement terminé.
Ok. Alors, autre sujet, les musulmans du Mali ont célébré mardi dernier la fête de Tabaski, communément appelée fête des moutons. Cette année, le marché de bétail n'était pas suffisamment approvisionné et les prix étaient trop élevés. Alors, Badou, on revient toujours à vous. Comment expliquez-vous cette situation dans un pays à vocation agro-pastorale comme le Mali?
Non, la cherté du bétail sur pied a une explication. Vous savez que c'est le centre du Mali qui produit beaucoup d'animaux. Or, il y a une insécurité totale dans le centre. L'insécurité dans le centre n'est pas résiduelle, mais elle est totale. Donc les voies d'approvisionnement sont difficiles d'accès actuellement à cause des mines antipersonnes, etc., etc. Donc les quelques rares commerçants qui ont pu transporter le bétail à Bamako, ils ont triplé les prix. Parce qu'à la veille même de la Tabaski, je me suis amusé à me promener dans certains, au niveau de certains drals. Le mouton qui coûte le moins cher, ça, c'est 75 000 francs. Le mouton qui coûte cher, ça, c'est entre 250 000 et 300 000 francs. Bon, pour un journaliste, que je, si vous me dites de payer un mouton...
Dans la vente promotionnelle du gouvernement, il y avait des moutons de 50 000.
Oui, ça c'est la vente promotionnelle du gouvernement et ça a été respecté. Vous savez que nous sommes dans un État libéral. Le gouvernement fixe ses prix, mais les vendeurs de bétail ne sont pas obligés de respecter ces prix-là. Or, l'État n'a pas de moyens de pression sur ces vendeurs de bétail. C'est ça le problème, en fait. Donc, ce qui fait que beaucoup ont attendu parce qu'à la dernière minute, ceux qui n'ont pas pu écouler leurs moutons ont été obligés de rabaisser les prix. Nous, on a profité de ça pour en acheter. Parce que nous, on est des journalistes. Quand vous dites à un journaliste de payer un mouton à 200 000 francs, c'est pour lui créer des problèmes.
Alors, Barou, des explications à cette situation.
Dire que le marché n'était pas fourni ou approvisionné, moi, je pense que je ne vais pas m'hasarder vraiment à me lancer dans cette logique, forcément. Parce qu'après la fête, on a fait un tour, vraiment. Les moutons sont vraiment dans les différents marchés. Mais le prix, franchement, la fête, comme vous l'avez dit, c'est la fête des moutons, en réalité. Donc, c'est une période de surenchère, de la flambée des prix de ces moutons-là. Je pense que ça, c'est chaque année, quoi. Les gens se plaignent vraiment du prix élevé de ces moutons pendant cette période. Ce n'est pas un fait nouveau. Voilà.
D'accord. Alors, Abdramane, vous avez quelque chose à ajouter?
Oh, mais je pense qu'en réalité, à chaque année, on assiste à la même chose. Ce qu'il a dit, c'est forcément, c'est quand même un phénomène qui a beaucoup joué sur...
D'accord. On ne va toucher un aspect de
ce truc, mais ce qu'il faut dire, c'est que chaque année, on assiste à la même chose. C'est quoi? C'est le jeu du chat et la souris entre les acheteurs et les vendeurs. Alors, les moutons. Et donc, très souvent, ça se termine toujours à la faveur le plus souvent, ça se termine toujours à la faveur des vendeurs.
D'accord. Mais le mardi, jour de la fête, et le lendemain, mercredi, officiellement, chômé et payé au Mali. Pourtant, le jeudi, on a assisté à un absentéisme criard dans les services publics. Alors, comment expliquer ce phénomène? Pratiquement dans les services publics.
Cela s'explique d'abord parce qu'en réalité, chez nous, la fête, c'est 3 jours. En réalité, c'est 3 jours. Le premier jour, c'est surtout les grandes fêtes. Les 3 jours, les premiers jours, les gens le font, le consacrent à l'abattage des animaux. Le deuxième jour et le troisième jour, le consacrent aux salutations des parents les plus proches. Voilà, je pense que ce qui a inspiré aux autorités de prendre le deuxième jour de la fête comme jour chômé, puisqu'ils pensaient qu'en réalité, c'était un jour où les gens, de toutes les façons, allaient s'illustrer par un absentéisme. Mais en réalité, chaque lendemain de fête était un absentéisme au Mali.
Oui, mais le lendemain était férié, mais le surlendemain, il ne l'était pas.
Ce que je te dis, chaque lendemain, puisque le lendemain était férié, et chaque lendemain de fête a toujours accouché d'absentéisme.
Ok. Badou, est-ce que l'État doit continuer à tolérer cet aspect quand même de la fête?
Ça pose quand même des problèmes au niveau de l'administration. Parce que souvent, si vous avez urgentement besoin de documents, c'est compliqué tout ça. Mais en réalité, il faut reconnaître que beaucoup ne sont pas de Bamako. Il y a beaucoup de cadres qui servent ici, mais à l'approche de la fête, ils voyagent, ils vont dans le centre, ils vont vers le nord, ils vont vers le sud pour aller fêter à côté des parents. Donc, le temps de retourner aussi, ça crée des problèmes. Même si l'État n'avait pas chômé le mardi et le mercredi, les administrations allaient être vides. Donc, parce que la Tabaski, la fête du mouton pour nous, c'est quelque chose de très important pour la Oumma islamique, pour la grande communauté musulmane. C'est une fête particulière. Donc c'est une fête où on présente des excuses, on mange de la viande, et on célèbre ça dans une atmosphère de fête. Donc vraiment, dire qu'un seul jour, ça va suffire, et ça m'étonne. Et même si l'État n'avait pas chômé les 2 jours, les gens allaient chômer. ça, c'est clair.
Dire que beaucoup ne sont pas de Bamako, je pense que ça, ce n'est pas une excuse vraiment pour ne pas être dans ton lieu de travail. Et lorsque le jour n'est pas frais, je sais que vous êtes venu travailler, même si c'est, vous n'êtes pas de Bamako, vous êtes obligé vraiment de respecter la permission, de respecter le jour qui est férié, le jour qui n'est pas. Ça traduit simplement les grands bazars vraiment qui existent au niveau de nos administrations publiques en réalité. Personne ne contrôle personne et tout le monde est laissé à lui-même.
Mais quelle solution vous proposez ?
La solution, ça vient du plus haut niveau. Ton directeur ne peut pas venir travailler et le planteur vraiment refuse de travailler au motif que prenant le prétexte vraiment de la fête pour ne pas venir travailler. Ça, ce n'est pas possible. Si le chef est absent, tout le monde s'absente.
Okay. Voilà. Badou, solution.
La solution, que l'État prenne ses responsabilités, que le président sortant qui a été réélu sache manier le bâton et la carotte, comme il dit que rien ne sera plus avant et qu'il va désormais se.
C'était en 2013. Rien ne sera plus comme avant.
Bon, on va attendre de voir.
Alors, Abdraman, est-ce que vous avez des solutions à proposer ? Quelle sera la solution ?
La solution, on ne peut pas avoir une solution seulement pour les fêtes. En réalité, c'est un phénomène. L'absentéisme, le phénomène, le manque de rigueur, c'est quelque chose qui se répand sur beaucoup d'autres choses. Donc, en réalité, je pense qu'il faut insister un peu sur le civisme, la citoyenneté et le goût du travail. Il faut donner aux citoyens maliens le goût du travail. J'ai l'impression qu'en réalité, parfois, on a même vu pire que ça. On a même vu par exemple, l'État même décréter des jours fériés qui ne devraient pas l'être. Beaucoup de fois, qui ne devraient pas l'être. Donc, en réalité, l'État est en train de l'encourager. Là où il devrait encourager, au contraire, la rigueur, l'assiduité, et puis le goût du travail et le labeur. Donc, c'est ça. Donc, il faut cultiver un peu beaucoup plus de citoyenneté, un peu beaucoup plus de sens de la responsabilité. Et les gens, et c'est là, ça demande un travail de longue haleine. Non, la sanction ne marche pas un peu dans ça. Il faut être beaucoup plus didactique. Il faut que, c'est-à-dire, je sais pas, c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose qui s'est ancré dans le temps. Il faut du temps pour qu'on en sorte. Donc,
Apparemment, par rapport à notre premier sujet, apparemment même l'opposition, à travers Soumaïla Cissé, a respecté quand même ces trois fêtes.
Hein? Comment ?
L'opposition qui
a attendu. L'opposition encore plus, puisqu'elle est dans une dynamique populiste. Il veut ramasser les gens. Il ne va pas dire quelque chose qui déplaît à la masse.
Okay. Hein?
Souvent, on amène tout sous l'angle social et qu'on sorte de cette situation, qu'on prenne des sanctions sévères.
Voilà,
il y a une loi qui est là, on doit respecter cette loi. Il y a une heure précise pour venir.
La sanction ne peut s'exercer, ne peut avoir de l'effet que quand la masse y adhère. Quand la majorité n'adhère pas à une sanction, ça n'a pas d'effet. C'est pourquoi il faut cultiver. Il faut avoir d'abord l'assentiment de la masse.
Abdraman, on va écouter Ascoba.
Moi, je me dis que nous, les pauvres, c'est nous qui sommes les victimes. Parce que vous avez besoin d'un document administratif. Vous partez, celui qui doit vous faire ce document administratif, il est absent. Il est absent pour quel motif ? On ne vous le dira jamais. Donc l'État n'a qu'à servir. Il y a une heure précise pour commencer à travailler. Il y a une heure pour aller à la maison. Et je pense que en 2013, quand Ibeka est venu, on avait commencé un procédé. On amène un cahier. Si vous venez, vous écrivez votre nom, vous mettez l'heure à laquelle vous êtes venu, vous émargez. Je pense que c'est des procédures qui doivent continuer.
Ce pointage.
Donc, c'est un processus qui devait continuer. Okay. Comme ça, on va connaître.
D'accord.
La pentade regarde toujours que les nuques vraiment de ses devanciers, c'est ça.
Très bien. Voilà. Alors, nous disons merci à Abdraman Keïta du journal Le Témoin. Omar Barou Sidibé, merci, du journal L'Indicateur du Renouveau. Badou Escoba de l'hebdomadaire Le Carrefour, merci. Mohamed Aga Issa Feitan depuis Menaka, nous te disons merci. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani et mis en onde par Peting Diara. La régie vidéo était assurée par Salim Djouara et je suis Aliou Sidibé à la présentation. À la prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et toi. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Haloud Mamoudi.
Chienne Berry.